Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonsoir à toutes et tous, il est 17h, vous écoutez votre émission du mercredi Marmite fait son actu. Une heure que l'on va passer en direct avec notre invité pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Notre invité c'est Hervé Farge, président de l'Association pour la promotion de la musique classique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il nous parlera notamment du prochain concert des solistes de la Villieu, c'est ce samedi le 16 février à l'école de musique et de danse de Trappes. Et il nous parlera bien sûr de tous les projets que mène la PMSQ avec les enfants de Saint-Quentin-en-Yvelines autour de la musique classique. Je vous rassure, les chroniques habituelles de Marmite fait son actu seront au rendez-vous. Chloé avec sa consommation responsable, sa chronique consommation responsable, vous apprendra comment cuisiner les haricots blancs. Cindy, dans sa critique ciné, vous parlera du film The Hate You Give. Eva nous parlera du développement de la fibre dans les Yvelines. Gaëlle nous parlera dans quelques instants de l'actualité du cinéma Le Grenier à Sel attrape le flash d'actu local. C'est à 17h30 avec Julien Mathieu et puis notre décryptage média de la semaine avec une question existentielle. Peut-on utiliser le terme « gazé » quand on parle de gaz lacrymogène? Eh oui, c'est un sujet qu'on avait déjà traité un petit peu la semaine dernière, mais qu'on va développer aujourd'hui. Allez, musique, comme à notre habitude. Et puis, on rejoint dans quelques instants Gaël. Alors, la musique, c'est Cats on Trees, le groupe, et le petit morceau Siren's Call. Alors, ils sont en concert à la batterie de Guyancourt le vendredi 15 février à 21h. Il reste des places. Écoutez Cats on Trees, Siren's Call.
Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling. Carrying me, and I can live my story differently.
Marmite FM 88.4, comme tous les mercredis, vous écoutez votre émission Marmite fait son actu. Une heure en direct pour parler de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Et notre invité, il est avec nous par téléphone. Jingle.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Hervé Farge, bonjour.
Bonjour Norbaline.
Oui, donc président de l'Association pour la promotion de la musique classique à Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes avec nous, Hervé, pour nous parler de l'actualité de la PMSQ qui commence dès ce samedi avec un concert. Un concert des solistes de la Ville-Dieu à l'école de musique et danse de Trappes. Vous nous en dites un mot ?
Absolument. Donc c'est samedi à 18h à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. Donc c'est un concert de musique de chambre,
oui.
Dans lequel seront joués deux sextuors. Donc ça c'est des œuvres un peu particulières, c'est relativement rare. C'est-à-dire que nous avons deux violons, deux altos et deux violoncelles. Et donc il y en a un, c'est le sextuor accord numéro 1 de Brahms. Et le deuxième, c'est le sextuor Souvenir de Florence de Tchaïkovski. Donc ce sont vraiment deux tubes, entre guillemets, hein, de la musique de chambre. Pour les gens qui l'entendraient, ils reconnaîtraient tout de suite. Ce sont des œuvres qui sont très, 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 très connues. Et nous allons avoir en fait deux grands solistes, dont des piliers des solistes de la vidéo, puisque nous allons avoir Xavier Philips,
ouais,
qui nous suit depuis le tout début, et puis Marianne Piketty. Mais là, ils seront accompagnés par les futurs talents, c'est-à-dire des jeunes artistes en pleine progression. Hein, nous avons Julie Fritz au violon, par exemple, diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de danse de Lyon. Vladimir Persevic à l'alto, qui lui aussi premier prix du Conservatoire de musique de Paris. Marine Gardon en alto aussi, et toujours les conservatoires supérieurs de Paris. Et enfin, Héloïse Luzzati, qui elle aussi est sortie dans les meilleurs de ces conservatoires supérieurs de Paris. Donc en fait, ce sont des jeunes musiciens très 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 talentueux qui en fait donc interprètent avec ces deux solistes internationaux ces œuvres de musique de chambre. Alors la musique de chambre, c'est très intéressant parce que c'est pas comme dans un orchestre où il y a un chef qui dirige et puis les musiciens suivent le chef. Là, c'est en fait un dialogue entre tous les musiciens. Et c'est d'une très très grande subtilité, c'est très très intéressant. En plus, ce sont des œuvres ça ne pardonne pas. C'est-à-dire si c'est joué sans qu'il y ait la complicité entre les musiciens, ça peut être relativement fade. C'est-à-dire ça va être joué, mais il n'y a pas l'émotion, ce qui n'est pas le cas là, puisque ce sont des musiciens qui se connaissent très bien, qui jouent beaucoup ensemble, que ce soit les maîtres, que ce soit leurs anciens élèves qui sont en train maintenant de les rejoindre. Et en plus, c'est dans la salle de l'auditorium de Trappes.
Qui a une très belle acoustique.
Voilà, une acoustique exceptionnelle. En plus, maintenant, nous avons un public. Les salles maintenant sont pleines. Les publics viennent de Paris, de Chartres, de Versailles. Enfin, et puis, bien entendu, de Saint-Quentin-en-Yvelines et Trappes. Donc, c'est vraiment un public maintenant qui reconnaît, enfin, qui sait qu'il se passe des choses extraordinaires dans cet auditorium. Alors en plus, il y a une proximité avec le public. C'est aussi un des avantages de ce lieu assez magique. C'est que vous avez, en fait, les premiers rangs
sont très proches des musiciens.
Ouais. Et les musiciens nous disent qu'il y a une écoute à Trappes qui est assez extraordinaire. Et ils adorent venir jouer à Trappes parce qu'il y a en fait cette complicité, cette écoute que l'on trouve pas forcément dans des salles parisiennes. Donc,
ouais,
c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis alors, l'autre plaisir, c'est après le concert. On échange avec les musiciens. Et là, c'est vraiment passionnant parce que chacun exprime plus ou moins ce qu'il a ressenti. Et là où on est très très content, c'est que maintenant on a un public qui n'avait qui ne connaissaient pas la musique classique. Il y a, quand on a commencé en 2003 et en 2005 à Trappes, les gens ne savaient pas, n'appréciaient pas du tout la musique classique. Et maintenant, c'est pour eux un bonheur. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est un peu notre rôle. Hein. Vous avez l'école de musique qui forme des musiciens et elle remplit un rôle formidable. Et nous, ce qu'on cherche un peu à former, ce sont des spectateurs.
Voilà.
Donc, on est très complémentaires avec l'école de musique et de danse qui nous accueille avec vraiment beaucoup d'attention et ça se passe vraiment très très bien.
Et puis ça tombait, il reste encore des places, me semble-t-il.
Oui, il reste encore.
Il faut faire vite.
Voilà. Il faut faire vite, oui, maintenant il faut faire vite. Hein.
Alors c'est à quelle heure?
Alors c'est à 18h.
18h.
Hein, 18h, il faut réserver au 01 30 66 33 59. Voilà, je répète, 01 30 66 33 59, ou alors par mail à apmsq@musique-en-français-musique, trait-d'union-sqy.org. Donc maintenant, il vaut mieux réserver parce que ça commence à être plein.
Oui, avant, ça se remplit rapidement.
Voilà, donc on conseille maintenant beaucoup de réserver.
Alors en ce moment, Hervé Farge, vous êtes en train de travailler sur les concerts pédagogiques à venir. Vous pouvez nous en dire un mot de ces concerts pédagogiques
qui
se jouent en général à la Meurise, hein, avec les scolaires.
Alors ça se joue à la Meurise, voilà. Alors ça se fait en partenariat, donc en coproduction en fait, hein, avec la Meurise.
Oui.
Alors en fait, ça se joue sur 3 journées. Donc nous avons le samedi 16 mars, ce qu'on appelle un concert symphonique famille, où là, nous allons avoir donc l'ensemble orchestral de La Villedieu que nous avons créé, qui est un orchestre composé là de jeunes musiciens qui sont encore dans les grands conservatoires supérieurs de musique européenne, soit qui en sont sortis et qui sont en début de carrière, donc qui cherchent, si vous voulez, à jouer dans des orchestres. C'est dirigé par Pierre Calmelet, qui est un grand chef d'orchestre, qui notamment est au conservatoire de Boulogne-Billancourt et à la scène musicale, donc vous voyez le niveau. Et donc ils vont interpréter le concerto pour violon de Beethoven, bon, qui est une merveille absolue. Et puis nous allons avoir les 2 maîtrises, parce que nous sommes très attachés à ce que la maîtrise de Trappes-en-Yvelines puisse jouer sur scène accompagnée d'un grand orchestre. Et elle sera aussi, comme l'an dernier, avec la maîtrise de Rambouillet. Et donc, elles vont chanter des airs d'opéra, de grands opéras classiques, toujours accompagnées par l'orchestre symphonique. Et alors, là, les 2 journées précédentes, on organise en fait le 14, jeudi 14 et vendredi 15 mars, 4 séances de concerts pédagogiques, donc 2 le matin et 2 l'après-midi, donc ça en fait 8 au total. Et là, on accueille des écoles de Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, puisque en fait, nous sommes l'association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais avec notre cœur essentiellement au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est-à-dire à Trappes. Et donc là, nous avons des écoles. Alors ça commence en fait en moyenne section de maternelle jusqu'en CM2. Et nous avons envoyé un dossier pédagogique sur le concerto de Beethoven, avec son contexte historique, son contexte géographique, le contexte politique aussi, et puis le côté artistique, bien sûr, et la personnalité de Beethoven, qui a en fait vécu une période assez exceptionnelle, puisqu'il a connu la Révolution française et ensuite toute la période du consulat de l'Empire et la Restauration. Donc, ça a été le complet chamboulement de l'Europe et en fait ça se sent dans sa musique.
Dans sa musique,
et donc voilà, donc on présente ça et c'est donc les 3 conseillers pédagogiques avec qui on propose aux écoles et aux classes de venir. Donc nous en avons 2 sur donc la partie de Saint-Quentin-en-Yvelines sud est, et puis nous en avons une aussi pour Villepreux. Et là nous avons des écoles qui viennent de partout, d'Écclay-sous-Bois, de Villepreux, Plaisir, Maurepas.
Ça fait quand même près de 5000.
On est très embêté parce qu'on a actuellement 4480 réservations pour 4400 places. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Alors, on est en même temps très, très heureux parce que ça
veut dire que ça marche, hein, tout ça, que ça intéresse aussi les écoles.
Exactement, que ça répond à un besoin. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, y a une écoute vraiment extraordinaire. Et on hésitait un peu, notamment sur les maternelles. Et en fait, non, c'est au contraire, ils sont très, très attentifs. Mmh. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça a d'abord été bien préparé. C'est-à-dire que le dossier pédagogique permet à l'enseignant de bien expliquer à l'enfant. Vous savez que maintenant, avec les tableaux numériques, ils peuvent faire écouter déjà quelques extraits aux enfants. Donc, les enfants sont déjà bien, bien préparés. Et quand ils sont dans la salle, ils sont entièrement à l'écoute. Il y a très peu de bruit, à part les dossiers. Vous avez de la nourrice qui claque parce qu'elle bouge un peu sur leur siège. Mais ça, tout le monde le connaît.
Oui, c'est ça. Ceux qui vont à la nourrice, ils connaissent.
Tout le monde a la
Donc ça, c'est... Donc ça, c'est les actions autour des concerts pédagogiques notamment. Et puis, on le rappelle, avec le concert symphonique familial, famille, ça aussi, c'est le 16 mars, il faudra aller...
Ça
vaut le détour également, il faut réserver.
Absolument, absolument. Ce sont des très grands moments. Et donc, vous pouvez réserver. Alors, on a un accord, c'est-à-dire que les habitants de Trappes réservent à la Meurise. Et les autres réservent à l'APMSQ. Voilà, s'est mis d'accord sur ce principe. Voilà. Alors, et puis autrement, oui, pardon.
Oui, parce que pour compléter, vous êtes aussi dans les écoles depuis le mois de septembre, là, pour la préparation du spectacle de fin d'année scolaire.
Absolument, absolument. C'est l'autre activité. Donc, nous avons depuis, effectivement, ça commence en septembre, et nous avons actuellement... 388 enfants. Alors là, nous avons des classes sous bois, deux classes de plaisir, deux classes de la Verrière, deux classes d'Elancourt et tous les autres, c'est huit classes de Trappes, dont notamment deux classes de Jean Massé. Et il travaille sous la direction de notre chef de chœur, Gabriel Aboda, et de Geneviève Lacombe, pour apprendre par cœur toute l'œuvre qu'ils vont jouer. Et c'est un opéra sur Pinocchio, donc c'est l'histoire de Pinocchio, mais sous forme d'opéra. Alors on va avoir la fée bleue, on va avoir le renard, le chat, enfin toutes les Gepetto, enfin tout l'opéra de Pinocchio qui a été composé par Étienne Perruchon. Étienne Perruchon qui en fait avait composé cet opéra déjà pour nous et qui a été donné en 2005. Donc si vous voulez, on avait envie de le redonner quelques années après et le redonner à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ça, c'est un énorme projet et on est en plein dedans. On est en partenariat avec notamment une association de Trappes pour faire les costumes qui vont, avec des femmes de Trappes. Enfin, c'est une grande, grande participation au niveau de la ville. Hein, surtout que tous ces enfants sont, les femmes de Trappes, c'est leur grand-mère, leur mère ou les tantes. Enfin, c'est tout, on est tout en famille, là. Que ce sont tous essentiellement à part Jean Massé, les autres classes, c'est il y a des classes de Langevin, il y a des classes de Henri Vallon, et puis il y a encore deux classes.
Peut-être Thorez aussi également, je ne sais plus si vous êtes à Thorez, à Montaigne.
On avait déjà travaillé avec Montaigne. J'ai un petit trou de mémoire.
En tout cas, vous avez huit écoles.
Voilà, tout à fait. Et donc, alors le spectacle est gratuit. Mmh. Il est au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est le 15 juin à 20h30 au théâtre.
Et là aussi, il faut réserver parce que ça se remplit très rapidement.
Il vaut mieux réserver. Donc toujours les mêmes. La PMSQ 01 30 66 33 59 ou alors à PMSQ@musique-sqy.org.
En tout cas, merci. Bon, on aurait pu échanger encore. Je sais que vous êtes très occupé, Hervé Farge. Vous êtes en train de préparer vos concerts pédagogiques.
Ah, oui.
Mais on vous recevra une prochaine fois pour parler plus en détail du travail de la PMSQ sur Trappes et sur Saint-Quentin-en-Yvelines plus largement.
Oui, volontiers. Et puis avec, je pense qu'on pourrait essayer de faire quelque chose aussi avec notre chef d'orchestre, chef de chœur.
Oui, Gabriel Aboda.
Oui, Gabriel Aboda, parce que c'est une personne exceptionnelle, hein, qui notamment développe la maîtrise de trappe. Et on était très fiers que la maîtrise a chanté à l'Hôtel de Lasset, à l'Assemblée nationale, le 25 juin, devant les députés, et les a impressionnés. Parce que vous savez qu'il y a des clichés selon lesquels on ne peut pas imaginer qu'à Trappe, il y a des enfants qui chantent de l'opéra, et ben voilà. Ouais. Ça a été le cas et ils ont été vraiment, vraiment impressionnants.
En tout cas, merci Hervé Farge et puis à bientôt.
À très bientôt. Merci Nouradine. Bonne journée.
Voilà, donc on était avec Hervé Farge, président de l'Association pour la promotion de la musique classique à Saint-Quentin en Yvelines. Donc, prochain concert, c'est le concert des solistes de la Ville-Dieu, samedi 16 février à 18h à l'école de musique et de danse de Trappe. Allez, on va passer de la musique au cinéma, même s'il y a de la musique au cinéma, avec Gaëlle.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaëlle.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour Nouradine.
Ça va ?
Oui, ça va, merci.
Alors, comme chaque semaine, tu nous parles de l'actualité et de la programmation du cinéma Le Grenier à sel à Trappe. Alors, quoi de neuf au Grenier à sel, avant de parler des films ?
Ah, dis donc, je sors de mon travail, là, je suis pas... D'habitude, tu vois, je prépare toujours un petit truc, j'essaie de... Ben là, je suis un peu pris de court,
sèche,
en fait. Non, parce qu'on anticipe des éventuels travaux dans la rue et autour du cinéma, liés évidemment à la N10, à l'enfouissement de la N10. Ouais. Donc ça nous occupe un petit peu parce qu'on essaye d'anticiper, de savoir comment on peut continuer à avoir des séances sans que ça soit trop dérangeant, tant qu'on a accès au cinéma. Voilà, donc
La rue va être fermée ?
Je suis pas en train d'inquiéter et d'annoncer des choses, on est en train d'y réfléchir. Donc non, je répondrai pas à cette question pour l'instant parce que je n'ai pas
de réponse.
Oui, il y a des choses qui seront gênantes, des accès qui seront difficiles, mais c'est pas demain, c'est pas tout de suite et on est
en pleine réflexion.
Donc pour l'instant, c'est juste dans nos têtes et je n'annonce rien. Voilà. Bref, du coup, on est vachement omnibulé par ça. On essaye de voir si, éventuellement, si un jour on est complètement coincé, qu'il n'y a pas accès au cinéma, c'est possible, on ne sait jamais. Est-ce qu'on ne peut pas délocaliser des séances ? Est-ce que, donc on est en train d'essayer de voir ce genre de choses et ça demande pas mal d'organisation. Bon, en tout cas, pour l'instant, on s'en fiche, on n'est pas concerné par ça, même s'il y a plein de travaux autour du cinéma. Ceux qui se garent au cinéma, ceux qui viennent chez nous, leur marque, le parking est bien entamé.
Il y a plein de travaux de préparation. Ah oui, en plus, il y a d'autres travaux qui se font juste en face de chez vous.
Eh oui, on est cerné.
On est cerné par
les travaux, les trous, les engins. Sur le parking, actuellement, il y a des travaux sur les canalisations de gaz. Devant le cinéma, il y a l'Étoile d'Or qui est en train d'être retapée, en café-concert, café-culture. Donc on est très content d'avoir ce bâtiment qui va apparaître et qui va se lier au cinéma.
C'est sympa, ça fait une belle place entre le cinéma. On peut aller voir un film, on peut aller voir aussi, un petit concert, boire un petit verre. Des petites conférences,
un petit stand-up, des petites animations, des liens avec le cinéma, mais surtout recréer le lien physique qu'il y avait historiquement entre cette grange et cette auberge, puisque la grange faisait partie de l'auberge, en fait. C'était l'accès à la vie, au village, à la ville, se faisait par ici. On arrivait directement sur le Grenier à sel, ce qui était assez étonnant. Mmh. Donc ça va recréer le lien historique de ces deux bâtiments historiques. Et on est très content, on attend ça. Bref, ça veut dire que là, pour l'instant, il y a un peu de destruction avant la réhabilitation, il y a un peu de boue et il y en a un peu partout. Mais encore une fois, nous, on y travaille correctement, on a des séances qui sont tout à fait correctes, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant.
Ça n'empêche pas de regarder les films.
Non, et de les entendre non plus, parce que je me rappelle de ta transition de la musique et du cinéma. Effectivement, dans les films, il y a beaucoup de travail sur le son, évidemment, et on est très content. Hervé Farge parlait de l'acoustique de l'auditorium. Nous, on est assez content aussi de l'acoustique qu'il y a au Grenier à sel. Entre ces volumes, ces matières, on arrive à avoir quelque chose d'assez unique, et ce qui nous permet d'avoir un son clair et sans avoir à le pousser. Tout le monde l'entend correctement, distinctement, sans avoir à le mettre trop fort. Et donc, nos spectateurs apprécient ça. On leur pète pas les oreilles, comme ils nous le disent. Et
comme ça se passe dans beaucoup de cinéma.
Oui, voilà.
Donc, c'est très fort.
En contrepartie, on entend aussi un petit peu les bus de l'autre côté de la, du mur, mais c'est, en même temps, on a aussi un son qui est...
C'est ce qui fait le charme du grenier à sel.
Voilà. Bon, alors je vous parle des films qu'il faut voir et entendre au grenier à sel. Il y a bientôt les Césars. Je vous avais vite fait parler la semaine dernière de, qu'on allait faire des reprises de certains films. Donc, on commence très bientôt, lundi prochain, avec le film Pupille, qui, dans lequel il y a Élodie Boucher et Gilles Lelouch qui sont nommés pour les Césars. Par contre, on n'aura qu'une séance pour ce film. Ça sera pour le Ciné-Club de lundi 18 février à 14h. Je rappelle que c'est une séance ouverte à tout le monde et qui est surtout suivie d'une discussion. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut échanger avec les autres spectateurs. Nous avons, donc ça c'est l'un des premiers films pour la reprise des Césars. Dans la semaine prochaine, nous aurons En Liberté, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde et Les Frères Sisters. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard, la semaine prochaine donc. Les autres films d'actualité de cette semaine, nous commençons avec Yao. Yao, le film de Philippe Godot avec Omar Sy. Peut-être que tu peux. Tu l'as pas vu celui-là ?
Non, pas du tout.
Non, toi qui as toujours des avant-premières.
Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'avant-première, donc je sais pas. Je ne sais pas ce que vaut le film.
D'accord.
J'en ai eu de bons échos.
Moi aussi.
Voilà.
Moi aussi. Donc c'est une comédie dramatique de Philippe Godot, dans lequel il y a Omar Sy et Lionel Louis Bass. C'est son premier rôle pour Lionel Louis Bass. C'est un film franco-sénégalais.
D'ailleurs, je te coupe.
Bah, okay. Oui, je vois ça.
J'en profite pour te couper parce que j'ai trouvé sympa que dans l'affiche, tu sais, en général, quand il y a vraiment une star et qui font jouer voilà, des gens à côté d'eux, bah, tu vois le nom de la star en gros et puis tout le reste en petit en bas. Et bah, là, sur l'affiche, bon, elle n'est pas là, mais en fait, sur l'affiche, bah, tu vois le nom d'Omar Sy et du jeune là.
Et de Lionel Louis Bass.
Ah, bah, c'est exactement la même, sur la même ligne, la même.
Ils ont en fait, alors je précise que tu as dit, c'est pas écrit là, c'est la photo, elle n'est pas là parce que tu as pris mon programme.
Oui, j'ai pris le programme.
Et effectivement, il n'y a pas d'image sur Yao. Mais en fait, dans le film, ils ont un rôle à la même hauteur en fait. Mm-hmm. Effectivement. Alors bon, l'histoire, c'est un personnage incarné par Omar Sy, qui est un acteur français hyper célèbre, comme par hasard, tiens, ça ressemble un peu à...
ça ressemble à quelqu'un qui...
Et qui est d'origine sénégalaise et qui vient au Sénégal pour la première fois, parce que dans le film, il n'a jamais mis les pieds là-bas, et il rencontre un jeune garçon de 13 ans, qui s'appelle Yao, d'où le titre du film, qui a traversé tout le pays pour aller à la rencontre de son héros, cet acteur. Et en fait, ils sont... il entraîne cet acteur à la découverte du pays. Omar Sy, le personnage joué par Omar Sy, va le ramener dans son village. Et donc, ils vont partir tous les deux à travers le pays, à travers le Sénégal. Et donc, c'est un duo, en fait. Ils jouent tous les deux et on les suit tous les deux pendant le film. C'est assez normal. Et c'est effectivement, comme il faut le souligner, parce que c'est pas... Souvent, on voit écrit en énorme « Clint Eastwood » et puis après, les autres, ils n'existent plus. Les deux ont un rôle qui est à la même hauteur. Et d'ailleurs, c'est une vraie révélation. Il est surprenant, ce bonhomme. Et c'est vraiment un bon à voir.
Un petit clin d'œil, hein, c'est Nourel Yakin de Déclic Théâtre qui m'avait fait remarquer ça quand il avait vu l'affiche.
Ouais, voilà. D'accord.
Donc, je rends à César ce qui lui appartient.
Bah, c'est bien. Il est bien le bon observateur. Et puis, c'est bien aussi pour ceux qui ont fait le film. Et puis, c'est bien aussi. Souvent, il y a des caprices d'acteurs, de stars qui veulent tout effacer autour et apparaître qu'eux. Donc, des fois, ça vient d'eux. Des fois, c'est juste la communication et la publicité. Des fois, ça vient des acteurs. Et donc, il ne faut pas oublier non plus que j'imagine qu'Omar Sy a dû avoir son mot à dire là-dessus.
Ouais.
Bon, voilà, on fait de la pub locale. C'est normal. Bon, on a aussi, je parlais de Clint Eastwood, bah, c'est normal parce qu'en fait, on a le dernier Clint Eastwood, La Mule. Clint Eastwood revient, on dit ça à chaque fois qu'il revient, et il revient régulièrement. Il est dans le rôle principal de son propre film, dans lequel on retrouve Laurence Fishburne et Bradley Cooper. Il joue le rôle principal, je disais, et donc il joue un vieux bonhomme de 80 ans qui est un petit peu sur la paille, il est fauché, il a une entreprise qui risque d'être saisie. Et il accepte un boulot qui, visiblement, ne lui demande pas grand-chose à faire. Il est juste chauffeur, sauf qu'en fait, sans le savoir, il se retrouve à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Ça, c'est un bon argument pour mettre un mur entre... enfin, bon. Trois petits points. Donc, retrouvons Clint Eastwood toujours dans un personnage un peu... dans des films un peu... un peu classique, et c'est ça qu'on aime aussi chez lui, c'est qu'on retrouve on trouve des choses qu'on aime bien, et il est efficace, il sait faire, et on va être sur on va suivre un vieux bonhomme, hein, faut le dire, c'est un vieux bonhomme, on va suivre ce vieux Clint Eastwood.
Harry a vieilli.
L'inspecteur Harry a bien vieilli, qui se retrouve donc passeur, mais en même temps il se retrouve avec les autorités qui essayent de lui mettre la pression pour donner un petit, pour arriver à rattraper ce cartel. C'est assez impressionnant toujours, hein, de Clint Eastwood. Et on a un dernier film, ça s'appelle L'Ordre des Médecins. C'est un film français, franco-belge même, j'avais pas remarqué. C'est un film franco-belge, je le lis sur mon papier, de David Roux, et on retrouve Jérémy Régnier et Marthe Keller. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Marthe Keller?
Pas du tout.
Pas du tout. Bah oui, t'étais trop jeune, Nadine. elle était avec Dustin Hoffman dans Marathon Man, par exemple.
Oh, je me rappelle.
Bon, c'est 76, ouais, bon, ouais. T'étais pas né, bonhomme.
76.
Moi non plus.
J'étais pas loin.
Et Ezita Enro aussi, en tant qu'actrice. Et elle est vraiment superbe. On l'avait découvert dans Fatima de Philippe Faucon. Mm-hmm. Donc, Jérémy Régnier est un médecin aguerri. Il travaille à l'hôpital et tous les jours, il côtoie la mort, la maladie.
J'aime bien cette expression, un médecin aguerri.
Ouais.
Bref, vas-y, continue.
En un seul mot. Et il est à l'hôpital et il côtoie évidemment, comme je disais, la mort et la maladie tous les jours. Et on croit qu'on est blindé, mais sauf qu'il faut aussi savoir se protéger. Il s'en protège en fait. Il met de la distance comme ça. Mais le jour où c'est sa mère qui est hospitalisée dans l'unité d'à côté.
C'est pas pareil.
Oui, l'unité, la frontière entre l'intime et le professionnel est un petit peu plus difficile. Voilà. Bon, moi, je trouve que Jérémy Régnier, il est super en acteur en ce moment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, je l'ai programmé. Venez le voir. Venez en profiter aussi. Et si je n'ai pas réussi à vous donner envie, vous en aurez un petit peu plus d'éléments sur notre site internet, cinemagrenieracel.com.
Merci, Gaël. À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Il est 17h31. On a une minute de retard. Mais c'est pas grave, comme c'était pour toi, Gaël. Merci. C'est l'heure du Flash Actu de Julien Mathieu.
Bonjour à toutes et tous, salut Nouradine. Une start-up incubée au Skycube à Guyancourt a inventé un nouveau système d'éclairage public. Ce système devrait être testé dans la rue Maurice Ravel à Guyancourt jusqu'à juin 2020. Il s'agit d'un boîtier autonome qui permettrait jusqu'à 85% d'économie d'énergie dans le secteur. Le but est de savoir adapter l'éclairage au bon endroit et au bon moment pour ne plus se retrouver avec un lampadaire allumé en pleine journée dans une rue déserte. Le boîtier pourrait aussi informer les agents quand il y a une panne. Plus la peine donc de faire le tour de la ville pour vérifier que tout fonctionne, ce qui limiterait également les frais d'intervention. À plaisir, la députée Florence Grandjus organise un grand débat national. Ce sera le mardi 19 février prochain, entre 20h et 22h, à la Maison des Sports. Plaisir, toujours, le nouveau parc des 4 saisons sera prêt en mars 2020. Parmi les nouveautés, un city-stade, des tables de ping-pong, un espace street workout et un théâtre de verdure. Le prix des travaux, 774 000 euros. À Morpa maintenant, l'association des Amis des Bois organise une opération nettoyage des bois. Ce sera le dimanche 17 février de 9h à midi. Si cela vous intéresse, rendez-vous au gymnase du bois, avenue de Normandie, à Morpa donc. Gilets fluo, habits visibles et gants sont fortement recommandés. Côté culture maintenant, voici quelques rendez-vous du week-end. À La Verrière, vous pourrez voir l'adaptation du célèbre roman de Richard Wright, Black Boy. Il s'agit d'un concert-spectacle dessiné. C'est l'histoire d'un enfant vivant dans le sud ségrégationniste américain du début du XXe siècle. Et ce sera au Scarabée, le jeudi 14 février à 14h30. Et puis pour finir, dimanche 17 février, la compagnie Les Tisseurs de Songes organise une nouvelle édition de la Murder Party, une sorte de Cluedo géant. Ce sera l'occasion de se mettre dans la peau d'un inspecteur pour résoudre une enquête, et ce sera entre 10h30 et 15h à Montigny. Pour plus de renseignements, www.kiosq.sqy.fr.
Marmite fait son actu, 17h, passé de 34 minutes. On est en direct jusqu'à 18h pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. On était à l'instant avec Julien Mathieu pour le flash d'actu local. Et le petit focus de l'actu, c'est avec Eva. Bonjour Eva.
Bonjour Narazine.
Et tu nous parles du développement de la fibre à Saint-Quentin-en-Yvelines. Non, plus large que ça, dans les Yvelines.
Exactement. Alors, d'ici fin 2020, le département a misé gros sur la fibre et prévoit un déploiement complet dans toutes les communes des Yvelines, donc du moins les plus denses. Donc, pour commencer ma chronique, chers auditeurs, je vous propose un petit rappel de ce qu'est la fibre, parce qu'on en tous entend souvent parler, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est. Donc en fait, la fibre optique, plus précisément, c'est une connexion qui permet d'avoir un accès de meilleure qualité Internet. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus rapide, et c'est très qualitatif et même beaucoup plus sécurisé. Donc comment ça fonctionne? Vous voyez peut-être des gens dans votre rue, des électriciens... fouiller dans le sol pour installer des câbles. Et en fait, c'est ça, la fibre. Ça passe par la terre et ce sont des grands câbles très forts et pratiquement incassables, on va dire. Concernant donc la fibre dans les Yvelines, le déploiement de la fibre dans les Yvelines, depuis 2011 déjà, l'entreprise SFR et Orange se sont engagées formellement auprès du département des Yvelines pour déployer le haut débit dans les zones urbaines denses. Donc les zones urbaines denses, c'est Trappes, c'est Saint-Quentin en Yvelines, c'est Versailles, tout ça. Des grandes villes, on va dire. Et donc ça date de 2011, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Au début du mois de février 2019, on a recensé 400 000 foyers éligibles à la fibre. Et fin 2019, le but est d'atteindre 500 000 foyers. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. En fait, chaque semaine, il y a des nouveaux travaux, chaque semaine, depuis 2011, peut-être 2012, on va dire. Et en fait, c'est un chantier colossal. Donc, voilà. Mais pour finir ma chronique, j'aimerais parler des zones rurales des Yvelines. Quid des zones rurales, parce qu'elles sont souvent mises de côté. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la fibre sera très présente avec un très haut débit, simplement d'ici 2020. Donc, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps, mais... Vous n'êtes pas oubliés. Simplement, pour finir ma chronique, j'aimerais vous rappeler que il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes éligible à la fibre que vous allez la recevoir directement, que vous n'aurez plus à payer une box internet. Il va falloir se rendre chez votre opérateur. Donc du coup, pour les Yvelines, c'est SFR et Orange, principalement Orange, et demander un abonnement. C'est un abonnement annuel à la fibre. Donc, c'est... Comment dire? On va dire que c'est un peu plus cher, mais de quelques euros. Et même, normalement, ils vont le proposer d'office. Donc, ne vous inquiétez pas. Et voilà, j'en ai terminé pour ma chronique sur la fibre.
Merci, Eva, qu'on retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur l'info locale. Allez, on va marquer une petite courte pause musicale avant de faire notre décryptage média. Je vous propose d'écouter Sora avec le titre Live Storm. La chanteuse fera la première partie des Cats and Trees le vendredi 15 février prochain à la batterie de Guyancourt. Sora.
They are out of their mind. Love, don't be afraid. Lights are out of their brains. Catch the sun in your head. Lights are bright on the stage. Mystery deep inside. They are way beyond. But sometimes that comes back. Love, don't be so blind. Can't be rewind. There's
sera sur les ondes de Marmite FM 88.4 avec le titre Life Storm. La chanteuse fera, je vous le disais tout à l'heure, la première partie des Cats and Trees le vendredi 15 février à 21h. Donc c'est ce vendredi à 21h à la batterie de Guyancourt. 17h, passé de 40 minutes. Tout de suite, on va faire le décryptage média. C'est parti.
Tout de suite, le décryptage média.
C'est le décryptage média.
Les analyses sont en cours.
Décryptage média.
La chronique de
Nouradine.
Comme chaque semaine, pour le décryptage média, je m'inflige quelques heures de débat télévisé ou radiophonique. Je fais défiler des fils Twitter, je regarde des posts Facebook, je lis la presse papier avec des grosses lunettes. Et chaque semaine, je fais des découvertes merveilleuses. La semaine dernière, je vous ai parlé de la remontada exceptionnelle d'Emmanuel Macron dans les sondages. Plus de 6%. Et j'évoquais avec vous les réponses et les éléments de langage des députés de la majorité ou des membres du gouvernement sur le mouvement des Gilets jaunes. Bon, j'étais tombé sur une émission, je vous en avais un petit peu parlé, notamment autour du terme « gazé ». Et là, je vous répète donc ce que je disais à l'époque, je suis tombé sur une émission, Le Grand Angle sur BFM TV, diffusée le mardi 5 février entre 22h et minuit et animée par Bruce Toussaint. Ça parle gilets jaunes, ça débriefe sur l'épisode 12 ou 13, je ne sais plus, de la mobilisation un peu partout en France, avec notamment comme invité de cette émission Aurore Berger, députée de la 10e circonscription des Yvelines, ou encore Florian Philippot, président de Les Patriotes.
Aurore Berger, je crois qu'il était une élue de Manila-Amo, c'est ça, hein?
Exactement. C'est la dernière fois que tu me coupes la parole pendant ma chronique. Donc, oui, elle était élue à Montigny et également conseiller communautaire à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, en plein débat sur les violences des manifestations du samedi 2 février, Florian Philippot tente de parler des violences subies par les Gilets jaunes, donc par la police. On écoute l'échange entre Aurore Berger et Florian Philippot.
Il n'y a pas de récupération, sinon je ne pourrais pas y aller. J'y vais, je discute longuement avec eux
parler, monsieur
sur
Philippot,
les ronds-points,
aller au bout de
France,
son raisonnement.
Dans les manifestations, et qu'est-ce qu'ils me disent? Nous, on a peur d'y aller, non pas pour ce que vous dites, hein, et on a peur d'y aller parce qu'on va se faire gazer lacrymogène.
Évitez d'employer le mot de se faire gazer.
Oui, histoire, blabla, là.
Non, c'est pas du blabla. Se faire gazer, ça évoque des choses que, honnêtement, je pense que vous pourriez employer d'autres
termes. Oui, je sais que c'est vos éléments de langage en marche.
Non, j'ai pas reçu d'éléments de langage avant de venir. Je trouve que ce sont des termes qui sont totalement déplaisants.
Donc ils se font gazer chaque samedi, le gaz lacrymogène, voilà.
Et là, je comprends pas, en fait. Je me demande, mais pourquoi Aurore Berger reprend Florian Philippot sur le terme gazer? Surtout qu'il dit la phrase, avant qu'elle le reprenne, « gazé à lacrymogène ». Donc je me dis, je ne comprends pas. Alors que c'est le terme que moi, j'ai toujours personnellement entendu depuis ma tendre enfance, même quand il s'agissait de gaz lacrymogène. Par exemple, il y avait une bagarre à la gare. « Oh, il y a quelqu'un qui a sorti une gazeuse », on disait d'ailleurs à l'époque, pour dire une bombe lacrymogène, et qui a gazé un peu partout. Voilà, et du coup, les gens pleuraient, ça piquait les yeux, etc. etc. Donc quand Aurore Berger dit « ça évoque des choses déplaisantes », on comprend pas, forcément, mais on peut se dire que ça évoque quelque chose, peut-être qu'elle part d'histoire, de l'histoire, alors dans notre histoire en France, qu'est-ce qui est lié au gaz? Bon, on se dit peut-être qu'elle part de l'histoire des Juifs, gazés aux Zyklon B pendant la Seconde Guerre mondiale. Je me dis non, j'ai du mal à comprendre, c'est peut-être moi qui interprète fallacieusement des choses que j'ai entendues. Sauf que deux jours plus tard, eh bien, Pascal Pro, qui anime l'émission L'heure des pros sur CNews tous les matins de la semaine, écrit un édito dans la publication papier du quotidien CNews. Voilà, il y a un quotidien papier qui est sur Internet, d'ailleurs, qui est disponible sur Internet, sous format PDF, et qui s'appelle CNews. Voilà, c'est un gratuit. Et dans cet édito, je vous le lis, c'est un édito qui s'appelle L'œil de, trois petits points, Pascal Pro. Donc, il donne son avis sur quelque chose, un fait d'actualité. Et le titre de son édito, c'est « Le sens des mots ». Et il va remettre en question le vocabulaire qui est utilisé par les manifestants. Et je vous lis une phrase. Alors, il parle des gueules cassées. Voilà, une expression qui appartient au vocabulaire de la guerre 14-18. Donc, il ne veut pas qu'on utilise ça pour parler des manifestations en France. Et il dit, je cite, « Le mot « gazé » renvoie à l'idéologie nazie, à la Shoah, au génocide des Juifs. » Le climat est pourri, l'air devient irrespirable. Je confirme à Pascal Pro que quand il y a de lacrymogène qui est lancé dans les manifestations, l'air devient irrespirable. Effectivement, pas uniquement le climat par rapport à deux pseudo-mots qui seraient mal utilisés. Donc lui, il confirme un peu ce que je pensais le mardi 5 au soir, mais sans me dire, voilà, il n'y a pas de preuve évidente qu'elle parlait de ça. Voilà. Donc les Gilets jaunes, Personne, d'ailleurs, ne doit utiliser ce terme qui est réservé, pour l'instant, selon ce que j'ai dit, au génocide des Juifs. On est d'accord. Ou en tout cas, au gazage des Juifs dans les camps d'extermination. Donc là, je suis un peu perdu. Alors, je me replonge sur Internet. Je regarde quand même la définition, parce que j'ai un terme, hein, voilà, je suis un journaliste consciencieux. Je me dis peut-être que c'est moi qui, depuis ma tendre enfance, utilise ou entend, quand j'entends des termes comme ça, je me dis, bah, c'est le mauvais terme, mais tu le savais pas, Nouradine. Et du coup, je tape le terme gazé, et puis je vois verbe transitif. Il y a plusieurs explications, hein, mais intoxiquer quelqu'un avec un gaz de combat, synonyme asphyxié. La question, c'est est-ce que ce gaz lacrymogène, c'est un gaz de combat ou pas? Parce que moi, voilà, je suis un journaliste quand même pointilleux. Ça me suffisait déjà comme réponse pour me dire que bon, bah, lacrymogène, ça peut rentrer là-dedans, parce que c'est quand même un gaz qui est lancé contre des manifestants pour les repousser. Voilà, c'est une arme, quoi. Ben, j'ai lu un autre article du Monde diplomatique de mai 2018, publié donc sur Internet. Celle qui écrit cet article, c'est Anna Feigenbaum, et elle nous dit: il est généralement admis que les troupes françaises ont inauguré le règne du lacrymogène lors de la bataille des frontières d'août 1914 en tirant dans les tranchées adverses des grenades remplies de bromacétate d'éthyl, une substance irritante et neutralisante, mais non létale à l'air libre. Voilà, de lacrymogène. Donc ce gaz utilisé pour le maintien de l'ordre est bien à l'origine utilisé dans des champs de bataille. Alors du coup, je me suis dit, mais d'où est-ce qu'ils prennent ça aussi, Horaire Berger, Pascal Pro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà parlé de ça avant eux, donc avant février? Et là, je tape sur Internet, je trouve sur mon philosophe préféré, Bernard-Henri Lévy. Et sur un tweet dans lequel il réagit à des gilets jaunes qui n'arrêtent pas de se plaindre à la télé d'être gazés, je cite, hein, « On est gazés par la police à longueur de journée, on n'a rien fait, on est gazés. » Lui, il dit « On a été gazés », répète en boucle sur toutes les chaînes d'infos les gilets jaunes. Savent-ils ce que gazé veut dire? Voilà, avec un point d'interrogation. Donc là, moi, ça laisse quand même perplexe sur qu'est-ce qu'il veut dire. Pourquoi il ne dit pas directement? Et quelques heures plus tard, parce qu'il voit qu'il a pris quand même une volée de bois vert sur Twitter, en lui disant, mais oui, vous savez pas, c'est vous qui ne savez pas ce que ça veut dire gazé, vous instrumentalisez le génocide des Juifs et tout ça, etc., etc. Donc lui, il répond, un peu plus tard, toujours sur Twitter, à l'intention des hypocrites, donc ceux comme moi qui pensent ça, c'est des hypocrites, qui font semblant de ne pas comprendre, je persiste et signe, être gazé à Verdun ou en Syrie à la Ghouta, entre parenthèses, j'ai adoré la parenthèse de Bernard-Henri Lévy, entre parenthèses, pour ne pas parler de Birkenau, il ferme la parenthèse, n'a rien à voir avec les lacrymogènes d'aujourd'hui. Alors pourquoi il a mis Birkenau entre parenthèses? Pour pas justement qu'on le soupçonne de reprendre le terme de gazé égale gazasse des Juifs. Non, lui, il dit Syrie et Ghouta et Verdun. Voilà, pour bien préciser que gazage ou gazé, c'est quand c'est la guerre.
Ou comme si Birkenau était un sujet tabou.
Voilà, c'est un sujet tabou. Voilà. En tout cas, il utilise ça d'une façon un peu vicieuse, je dirais. Alors, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure dans le monde diplomatique, le terme gazé, donc, peut marcher, puisque c'est du gaz quand même qui est envoyé sur les manifestants. D'ailleurs, j'ai un copain là, un copain de Bernard-Henri Lévy, qui l'apprécie beaucoup, hein, ils sont assez proches, d'ailleurs, on a déjà vu ça dans des émissions, c'est Yann Moix. Donc Yann Moix, vous le connaissez, hein, c'est l'ancien chroniqueur de Ruquier, hein, le samedi soir, pour ceux qui regardent cette émission. Il était face à Benjamin Griveaux, qui était, je crois, à leur porte-parole du gouvernement, pour dénoncer les violences des policiers sur les migrants à Calais. Et qu'est-ce qu'il va utiliser comme terme? On écoute.
À la façon dont j'ai vu l'honneur de la République que vous évoquiez tout à l'heure se dérouler à Calais, où je ne sais pas si vous avez mis les pieds, mais j'y passe régulièrement des jours et des nuits depuis quelques mois. Et ce que je vois de l'honneur de la République, monsieur Griveaux, et vous n'y êtes pas personnellement responsable, ce sont des CRS qui gazent les couvertures de jeunes migrants de 18 à 25 ans, qui gazent l'eau potable de jeunes migrants, qui tabassent les jeunes migrants, qui sont soignés effectivement gratuitement par l'État parce qu'ils ont été frappés par la police la veille.
Voilà, donc il utilise ce terme clairement, qui gazent et les vêtements des migrants ou qui gazent l'eau. Et dans un autre extrait, bon, que j'aime et qu'on n'a pas le temps de tout écouter, il dit clairement qu'il gaze aussi les yeux. Parce que là, on aurait pu dire qu'il utilise ce terme que pour des objets ou des trucs comme ça, donc c'est un peu du poison qu'ils mettent peut-être sur les trucs. Mais non, dans un autre extrait, il dit clairement, en discutant avec des policiers à Calais, il leur dit « Oui, mais des collègues, c'est pas tous les policiers, mais certains de vos collègues, ils gazent les yeux des migrants, etc. etc. » Donc lui, il dit clairement ce terme-là. Alors, pourquoi lui, quand il utilise ce terme à l'occasion d'une émission, je crois qu'il était en début 2018, je ne dis pas, en janvier 2018, c'est ça exactement, pourquoi là, pas de tweet de Bernard-Henri Lévy, mais quand ça concerne un mouvement qui est critiqué presque depuis le début par Bernard-Henri Lévy, là, il réagit sur le terme gazé, comme pour empêcher tout débat sur la manière dont les forces de l'ordre sont en train d'essayer, en tout cas, de maintenir l'ordre par rapport à une manifestation qui dure quand même depuis le mois de novembre. Alors, un autre terme, on va terminer, c'est le dernier extrait qu'on va écouter, parce qu'on pourrait se dire que c'est un terme gazé qui est utilisé que récemment, ou depuis que Nourazine, il est jeune, on va dire dans les années 80, que c'est né à cette époque-là. Ben non, puisque dès 1968, là j'ai le témoignage d'un ancien CRS qui avait été mobilisé pour notamment maintenir l'ordre face aux étudiants en 68. Là il témoigne en 2008 sur la radio RFI et écoutez le terme qu'il utilise.
Là ça nous a gênés parce que si vous voulez, on nous affublait de tous les mots. On avait gazé au pire.
Donc lui aussi, il utilise le terme « on avait gazé ». Voilà, pour dire clairement que c'est du gaz lacrymogène. Donc, dans l'esprit des Gilets jaunes, hein, on est sûr que personne n'est en train de dire, à part peut-être quelques illuminés, que lorsqu'ils disent que la police les gaze, ils sont en train de faire une analogie avec ce qui s'est passé en Syrie ou en Irak ou pendant la Seconde Guerre mondiale. On est d'accord, personne n'est en train de se dire ça. Non, ils sont en train de nous gazer, ça veut dire qu'ils sont en train de nous envoyer de la bombe lacrymogène. Seulement, en instillant ces éléments de langage dans le débat autour des Gilets jaunes, on tend à minimiser l'impact de l'utilisation de ces gaz, hein, qui ont été critiqués d'ailleurs par plusieurs organisations, et qui serait acceptable, ce gaz-là, et donc de questionner l'approche répressive des manifestations. Si on ne peut utiliser le terme gazé, il faudra alors m'expliquer par quoi il faut le remplacer. Car comme dit l'adage, certes, même si mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, empêcher de les nommer, c'est aussi nier la réalité telle qu'elle est vécue par ceux qui vivent ces réalités.
Tu peux réagir ou...
Ah là, il reste bouche bée là. Vas-y Julien.
Non, en fait, j'ai l'impression quand même qu'en détournant certains thèmes ou certaines expressions, en fait, on casse les actions, on ridiculise le mouvement. Et là, depuis quelques jours, on n'entend plus parler que des tags antisémites sur la tête, par exemple, de Simone Veil.
Oui, oui.
Il y en a eu d'autres. Et le mouvement, en fait, devra bientôt avoir à se défendre.
À se justifier de ne pas être antisémite.
Ouais. De ne pas être antisémite et de ne pas être d'extrême droite. Il y a sûrement des gens d'extrême droite qui profitent du mouvement, mais c'est pas forcément une majorité, en fait. On ne sait pas. Et bientôt, en fait, on ne débattra plus du fond, si ce n'est déjà peut-être pas encore le cas. Et en plus, ça augmente sûrement cette idée que les journalistes défendent une élite contre le mouvement, ou en tout cas défendent le gouvernement.
Écoute. On aurait pu discuter encore quelques temps sur cela. N'hésitez pas à réagir. Hein. Je vous rappelle que le décryptage média, c'est l'œil que je porte moi sur ce qui se passe dans les médias. Mais n'hésitez pas à réagir pour me dire « Nouradine, tu dis n'importe quoi » ou bien pour apporter même des choses peut-être qui vont dans notre sens. Donc n'hésitez pas, puisqu'on est dans une période de grand, avec un G majuscule, débat. Donc n'hésitez pas. Alors, on va terminer cette émission avec du cinéma, si vous le voulez bien. C'est Cindy qui est allée voir le film The Hate You Give, puisqu'on parlait un petit peu de haine quand même, hein, directement dans notre chronique décryptage. Elle vous dit ce qu'elle en a pensé.
Bah oui, parce que moi, je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby.
Rosebud. Vers l'infini.
Allô?
Salut, Cindy. Quel est ton film d'horreur préféré?
Bonjour à tous. Le rappeur américain Tupac avait fait tatouer en gros sur son abdomen les mots Thug Life, ce qui signifie vie de voyou en anglais. À l'époque, les médias pensaient qu'il revendiquait le style de vie des gangs. Il s'agit en fait d'un acronyme voulant dire The Hate You Give Little Infant Fucks Everybody, ce qui donne la haine que vous inculquez à vos enfants finit par tous nous niquer. C'est précisément ce message que le réalisateur George Tillman Jr. a essayé de faire passer à travers son film The Hate U Give, un film qui jouit d'un bon succès outre-Atlantique.
Je m'appelle Star, avec deux R. C'est papa qui a choisi mon prénom. Garden Heights. Papa et maman disent que notre vie est ici parce que les nôtres sont ici. Le lycée, c'est le meilleur endroit pour se droguer, tomber enceinte, se faire braquer. On va pas là. Williamson est un autre monde. Alors quand je suis ici, je suis Star 2.0. Jusqu'à ce que le week-end arrive.
Quoi de neuf? C'est que maintenant, tu traînes avec des blancs, alors...
Boucle-la!
Descendez de la voiture.
Star, est-ce que ça va?
Remets les mains sur la voiture! Fais ce qu'il te demande!
Stop!
Star, avec deux R, habite un quartier rongé par la pauvreté. Bien que ses parents essayent de la préserver en l'envoyant dans une école privée et en lui inculquant les valeurs des Black Panthers. Pourtant, ils ne peuvent rien pour elle quand elle assiste, impuissante, à la mort de son meilleur ami, Khalil, tué par un policier. En deuil, elle va subir les pressions de sa communauté. Certains vont vouloir qu'elle devienne une porte-parole des violences policières, et d'autres veulent la faire taire.
Revenons maintenant sur l'affaire du meurtre d'un adolescent noir de 17 ans par un officier de police blanc, samedi soir.
Violence. Brutalité.
On vit dans un monde compliqué.
Je le trouve pas si compliqué, moi.
Il parlait pas que des jeunes, il parlait de nous. Les noirs comme nous, pauvres, opprimés, tous les laissés pour compte.
Il faut que je parle pour lui.
Pour être honnête, je suis ressortie assez mitigée après le visionnage de The Hate U Give. Je m'explique. D'abord sur la forme. Alors j'ai beaucoup aimé l'étalonnage, c'est-à-dire les couleurs qu'on travaille au montage. Donc la communauté blanche est filmée avec des teintes bleutées et la communauté noire dans des tons plus chauds. Hein, c'est un vrai parti pris artistique et ça donne vraiment bien à l'image. Pour le reste, la réalisation est plus que correcte. Maintenant sur le fond, je peux que saluer la volonté de traiter les violences policières contre la population afro-américaine, un fait qui malheureusement est encore d'actualité aux États-Unis. Mais, comme souvent avec ce genre de film, c'est un peu casse-gueule. Et là, on n'évite pas les clichés. On a une vision qui est assez manichéenne, voire simpliste, des deux communautés avec d'un côté les blancs bourgeois et hypocrites et de l'autre les noirs cantonnés au rap et à la drogue. Même si le réalisateur ne tombe jamais dans l'angélisme ou l'idéalisation, etc. Le point positif, je dirais, c'est l'empathie qu'on va ressentir pour le personnage de Star. On plonge peu à peu dans sa tête et toutes les contradictions et les dilemmes auxquels elle doit faire face, donc que ce soit scolaire, sociaux, familiaux, communautaires. Et on a tout de suite de l'empathie pour elle, notamment, je dois dire, à l'interprétation solide d'Amandla Stenberg. Et ce sentiment s'étend peu à peu à toute sa famille. Plus le film il avance et plus on s'attache à l'ensemble des membres de ses membres et à leur histoire. Bref, loin d'être exemple de tout défaut, The Hate U Give reste un bon teen movie, un film pour les adolescents, qui a le mérite de prendre des risques et de les assumer. On se posera seulement la question du message de fin, contradictoire. Au final, la violence enferme dans la violence. On en vient à se demander si, malgré l'envie de sensibiliser les jeunes à une juste cause, cette approche trop manichéenne et communautariste n'est pas finalement contre-productive. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Cindy. C'est terminé pour cette émission de Marmite fait son actu. Je vous rappelle qu'on est rediffusé le vendredi de 17h à 18h. Ce soir à 20h, vous retrouvez le prochain direct de Julien avec l'Antisèche. Il sera présent avec toutes ses chroniqueuses et ses chroniqueurs pour une émission déjantée. Bonne fin de programme sur Marmite FM.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.